Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Christiane Rancé pour parler de Lucien Gerfagnon. Christiane Rancé, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'avais eu le plaisir de vous recevoir en début d'année pour nous parler de Tolstoï. Donc, les auditeurs des Racines du Ciel vous connaissent déjà. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous faites donc un certain nombre de portraits de grandes figures spirituelles et littéraires. Et vous avez publié récemment chez Albin Michel un livre d'entretien avec Lucien Gerfagnon, De l'amour, de la mort, de Dieu et autres bagatelles. Et évidemment, Lucien Gerfagnon, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on a reçu également il y a un an aux Racines du Ciel. Et il est décédé depuis. Il est décédé à 90 ans le 16 septembre 2011. Et nous souhaitions profiter de cette occasion que vous avez côtoyé longuement Lucien Gerfagnon pour faire ce très beau livre d'entretien, pour que vous nous parliez un peu de sa pensée, parce que quand nous l'avons reçu, il est très modeste. Et donc, on a pu lui tirer un peu les vers du nez, mais quelque part, il aime bien parler beaucoup des autres et pas beaucoup de lui. Et c'est l'occasion, finalement, de parler de ce grand penseur. Mais en deux mots, avant qu'on rentre, rappelez-nous simplement, en quelques mots, juste son itinéraire, on va dire, extérieur, c'est-à-dire sa carrière. C'est un universitaire français. Dites-nous quelques mots.
Oui, absolument. Lucien Gerfagnon est un universitaire français, professeur d'histoire, professeur de philosophie. Il a enseigné à l'université de Caen. Et c'est une personnalité extraordinaire parce qu'il a apporté à l'enseignement, presque une méthode, bien qu'il n'ait jamais voulu se poser comme quelqu'un qui apportait des méthodes, consistant à appareiller l'histoire et la philosophie pour revenir à la source des textes.
Il a publié donc de nombreux ouvrages. Dites-nous quelques exemples de livres qui ont été marquants dans son
Alors,
itinéraire.
Des livres marquants, il a retraduit Saint-Augustin pour la Pléiade et il est arrivé à faire de cette... Il a dirigé donc l'édition de Saint-Augustin dans la prestigieuse collection de la Pléiade et il est parvenu à en faire un best-seller. Sinon, il était spécialiste de l'Antiquité et de Rome et il était spécialiste de Saint-Augustin, mais avant, on s'est beaucoup penché sur Plotin, s'est beaucoup penché sur Platon et il a écrit Des dieux et des hommes, Les dieux ne sont jamais loin, Histoire de la pensée antique. Donc il a toujours tenu à cette double méthode de l'histoire et de la philosophie ensemble.
Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez lu le livre d'entretien de Christiane Rancé avec Lucien Gerfagnon. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Eh bien, je l'ai lu vraiment avec, je dirais, avec délices. Parce que c'est une conversation qui en même temps paraît très naturelle, dans laquelle il retrace effectivement ce que vous appelez les lignes extérieures de sa vie, de son enfance bordelaise, et puis comment il est arrivé à la philosophie, comment il s'est intéressé à l'histoire. Donc c'est comme si on était assis là à côté de lui et qu'il nous racontait aussi sa vie. Et puis, au fil de cette vie qu'il raconte, il dit surtout l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il pense. Et ça se déroule, mais pas de manière pontifiante. Il n'a jamais été pontifiant, il ne l'est pas dans cet entretien. Et je trouve que vous avez réussi à faire sortir de lui, enfin, de dire ce qu'il pense, comment il a vécu les choses de l'intérieur, ce que c'est que pour lui de philosopher, ce que c'est que pour lui la mort, Dieu, l'amour, la foi. Et vraiment, ça se lit... En même temps que c'est quand même d'une très haute tenue philosophique, ça se lit de manière très agréable, comme une conversation avec un vieux sage, avec une sorte de Socrate du 21e siècle, qui nous livrerait ses dernières réflexions sur ce qu'a été sa vie et ce qu'elle a vécu en particulier. Et c'est peut-être pour cela que j'avais envie de donner lecture, pour commencer cette émission, de ce qu'il raconte lui-même comme étant... son expérience inaugurale, ce qui fait qu'il est devenu plus tard philosophe, c'est une expérience qu'il a eue à l'âge de 4 ans. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se poser la question fondamentale. Pourquoi y a-t-il les temps et non pas plutôt rien? Évidemment, il ne se l'est pas posé en ces termes-là à l'âge de 4 ans. Mais il raconte que cette expérience presque sensuelle qu'il a eue de l'existence a fait de lui un philosophe et que plus jamais après, il n'a cessé de se poser la question « Pourquoi les choses existent ? Pourquoi le monde ?» Je me revois ce jour-là dans un parc boisé, tout seul, traînant au bout d'une ficelle un petit camion que je revois lui aussi. Et tout d'un coup, les choses se mirent à être là. Les arbres s'imposaient, immenses, agités de vent, et je voyais tout pour la première fois. Tout. Et moi qui, tout soudain, me voyais voyant. Le monde, un mot que je ne savais pas encore, le monde s'imposait, insistait, et je n'en pouvais plus rien nier, même en fermant les yeux. C'était là, voilà tout. Et je me demandais ce que cela faisait là. Oui, c'était là, et moi avec. Plus rien n'irait de soi, et je ne savais pas encore à quel point tout me semblerait insolite. Cette brusque coulée de présence avait bousculé d'un coup ce qui s'était mis en place dans la tête du bébé que j'étais, qui ne se posait pas de questions, si ce n'est l'heure du goûter, l'envie de se rendre aux toilettes, la paire de claques qui me vaudrait une sottise qui me tentait. Tout cela dépendait des grands, qui savaient tout. Mais là, c'en était fini d'une tranquillité que je me prenais à regretter à mesure que se posait la question apparut soudain. Pourquoi c'est là tout ça ? Et moi, qu'est-ce que je fais là ? Du tout naturel, le mystère avait surgi. Encore un mot que je ne savais pas. J'avais bien dû en dire quelque chose, mais quoi ? Aux parents, car on me parlait du bon Dieu. Mais ce qu'on m'en disait, ce qui me rappelait étrangement les histoires que ma grand-mère me racontait pour m'endormir, répondait à côté. Oui, c'en était fini de la tranquillité, de l'indifférence. Cette sorte de miracle avait tout relativisé en un instant de ce que je me figurais, de ce qu'on me disait, de ce qu'on me suggérait, de ce qu'on m'imposait. Non, rien n'irait plus jamais de soi.
Alors Christian de Rancé, on le comprend bien en écoutant ce texte, au fond c'est un homme qui s'est tout le temps posé la question tout simplement du sens de l'existence.
Oui, il avait une règle, s'il a pu en avoir une, ça a été celle-là, c'était « étonnez-vous ». Il part du principe que la philosophie, évidemment il n'est pas le premier à le penser, commence avec l'étonnement. Il fait cette expérience de l'étonnement à 4 ans, il s'étonne, mais il va plus loin que cet étonnement, c'est-à-dire il va commencer cette démarche qui consiste à vouloir comprendre le monde, à vouloir aller toujours beaucoup plus loin dans cette compréhension et donc à s'améliorer, à se donner des moyens et des outils pour comprendre le monde. Et ces outils, ce seront tous les textes avec lesquels il va pouvoir connaître, qu'il va pouvoir apprendre et qu'il va pouvoir analyser. Lucien Gerfagnon a eu, on peut dire, trois grandes expériences dans sa vie. Cette première expérience de l'étonnement à 4 ans, mais il le dit, on ne s'étonne pas une fois pour toutes. Quand on commence à s'étonner une fois, on continue à s'étonner toute sa vie. Donc cet étonnement va être une espèce de gymnastique intellectuelle. Il va s'étonner de l'autre, il va s'étonner des choses qu'il ne comprend pas. Elle va être presque une hygiène de pensée, une hygiène de vie, une hygiène intellectuel. La deuxième expérience, ce sera en classe de mathématiques. Il n'était pas bon en mathématiques. Il rêvait devant une gravure de l'Antiquité et cette gravure s'ouvre pour lui et lui fait découvrir la beauté du monde antique. Ça va être sa deuxième révélation. Il va se sentir tellement bien enfant dans cette représentation de ruines grecques en Algérie. Donc à l'époque, ça n'était évidemment pas l'Algérie, mais on va dire sur la terre de Saint-Augustin, qu'il va être bouleversé toute sa vie et qu'il ira ensuite à la recherche de ce monde entrevu. Et si on peut dire, il aura une troisième grande expérience qui sera l'expérience du malheur, l'expérience du chaos et de la barbarie quand il sera envoyé dans un camp en Allemagne pour avoir refusé le service de travail obligatoire. Et il va être envoyé dans une usine extrêmement dangereuse où c'est les autres prisonniers de temps en temps disparaissent dans un bruit d'explosion. Donc il va comprendre la barbarie, l'arbitraire et au lieu de revenir avec des alibis pour vivre lui aussi comme, on pourrait dire, une brute et se dire j'ai vécu un malheur terrible, donc je suis autorisée maintenant à récupérer ces années qu'on m'a prises, il va aller encore plus loin dans sa réflexion sur le monde, sur le sens de la vie. Il assistera à un cours donné par Vladimir Jankélévitch, et la façon dont Vladimir Jankélévitch va lui parler de philosophie va profondément le bouleverser, et de ce bouleversement puissant, il va en résulter cette quête d'un sens, un au-delà, d'un mysticisme qui va déterminer, on va dire, sa démarche de travail et sa démarche de pensée.
Oui, c'est une chose que vous montrez bien dans votre livre, c'est cette double dimension qui l'habite tout le temps, de l'agnostique, c'est-à-dire finalement du philosophe, on va dire du sceptique, de celui qui recherche, celui qui n'a pas d'a priori, de celui qui utilise sa raison. Puis en même temps, le mystique, c'est celui qui est fasciné par le néoplatonisme, par les expériences spirituelles fortes qui ont bouleversé Saint Augustin, tout un certain nombre de figures qu'il admire. Et donc lui-même, on se pose un peu toujours la question, comment il se situe au carrefour de ces deux expériences? Comment articuler agnosticisme et mysticisme?
Ah, mais il ne l'articule pas, il les met à dire « je suis un agnostique mystique ». C'est pour dire effectivement tout le paradoxe que ça représente et tout le long chemin de doute et en même temps de foi qui va présider toute sa vie à sa pensée, à son travail. Lucien Gervanon, ce qu'il avait d'extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours refusé les concepts, les vérités établies, les dogmes. Il s'en est toujours méfié. Il s'en est surtout méfié pour lui-même, ce qui est une grande leçon de philosophie. Et il va douter de tout, en même temps qu'il va être systématiquement en quête de cet un tout, de cet au-delà, de cette vérité, de cet absolu qui est mystérieuse, hein, ce qui donne le nom de mysticisme, c'est le mystère, et auquel la prière, l'introspection, la réflexion, l'intelligence, le cœur et l'âme, les trois ensemble, amènent à réfléchir. Et c'est dans cette démarche, dans ce travail, qu'il va essayer de se rendre lui-même meilleur, et c'est exactement cette démarche qu'il va employé quand il sera professeur pour donner à ses élèves la possibilité, au travers des textes qu'il va leur expliquer, de donner eux aussi le meilleur d'eux-mêmes et de devenir cet être unique, singulier, dont parle si bien Jankélévitch, unique, singulier, qui fait que personne, une fois qu'il a cet être à exister, plus rien ne peut être comme avant. Voilà, de donner à chacun la possibilité d'exalter en lui ce qu'il a de lui,
oui,
de meilleur.
C'est une sorte de processus d'individuation, voilà, dans lequel effectivement l'être, et ça rejoint aussi le projet nietzschéen, devenir soi-même, l'être s'accomplit, se perfectionne dans ce qu'il y a de meilleur, et en même temps, vous parlez de la foi. Et on se pose la question... puisqu'il n'adhérait pas à une église, qu'il n'était pas relié à un dogme quelconque, comment est-ce qu'on peut parler de foi pour lui?
Alors, Lucien Gervanon était quelqu'un qui était extrêmement discret. La foi, c'est un petit peu la langue maternelle de l'âme, et c'est une expérience personnelle qu'il n'a jamais voulu imposer aux autres. Il avait effectivement, il avait une définition qui était très belle. Il s'est toujours posé la question de savoir s'il avait la foi. Et un jour, il a eu une grande conversation avec Mgr Poupart, je crois, si je me rappelle bien, c'est Mgr Poupart, et qui lui a dit « mais la foi, c'est l'espérance en un amour ». Et donc il a répondu « mais alors j'ai la foi ». Et il a découvert à ce moment-là qu'il avait la foi. La foi, c'est effectivement espérer un amour. Et pour lui, c'est cette démarche profonde, quelle que soit, qui caractérise l'homme qui croit. C'est-à-dire ne pas décider, ne pas s'arrêter à des contingences, à des certitudes ou à des refus très bornés. Partir du principe qu'il y a toujours cet espoir d'un amour possible.
Est-ce qu'il parle de Dieu? C'est-à-dire que, parce qu'on peut dire Dieu est amour, et donc à ce moment-là, ça peut être l'espérance en amour, ça peut être la foi dans un Dieu amour qui est le Dieu de Jésus-Christ. Est-ce que ce Dieu-là l'a touché? Est-ce qu'il était touché par le message du Christ ou pas spécialement?
Ah, bien sûr. Pour lui, je pense que je me permets de dire que, bien évidemment, Lucien Gervanon s'inscrit dans ce qui est sa culture, dans ce qui va être aussi son étude. Il est quand même spécialiste de Saint Augustin. C'est un chrétien, il a une foi qui est très liée à la personne du Christ et à l'enseignement du Christ qui est que Dieu est amour.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il tient ensemble aussi toute la philosophie antique dont il était spécialiste et cette part de christianisme profond qu'il a travaillé effectivement à travers Saint-Augustin. Est-ce qu'on peut dire que de cette façon, il tient ensemble l'immanence et la transcendance? Il dit à un moment, j'ai découvert que j'étais parti à la recherche d'une transcendance, et en même temps, cette expérience dont on a parlé tout à l'heure, c'est quand même une expérience de l'immanence. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il, dans sa pratique même de pensée, il tente de concilier ces deux aspects?
Oui, bien sûr, dans la mesure où c'est quelqu'un qui donc est agnostique, donc part du principe qu'il n'y a pas de vérité établie. Il a toujours détesté ça. Il a toujours dit, moi, les penseurs sachant penser, ou les philosophes qui ont la prétention de croire qu'ils vont arrêter l'histoire de la philosophie à leur propre théorie, tout ça, il n'en voulait pas. Donc il a cette démarche, effectivement, qui est particulière et qu'il, si on peut dire appliquée en parlant par raccourci, qu'il applique à sa foi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va être tout le temps dans le doute, mais c'est un doute né de l'humilité. Suis-je capable de connaître l'inconnaissable? Suis-je capable de comprendre ce qu'est la nature même, ce qui peut être Dieu? Et donc il a toujours cette réflexion de grande humilité et de par rapport à ce qu'il peut savoir et comprendre. Donc c'est en une espèce d'aller-retour entre ce qu'il va étudier dans les textes et la grande humilité d'attendre des textes qui le nourrissent dans sa recherche, et cette attente, cette espérance en un amour, voilà, que va se situer un peu la pensée de Saint-Gervais Fagnon.
Alors dans ce cadre, pouvez-vous juste nous expliquer exactement ce qu'on entend par agnostique? Parce que c'est peut-être pas si facile que ça de définir ce mot.
Alors l'agnostique, c'est celui dont l'agnose, ça veut dire la connaissance, qui part du principe que Dieu est inconnaissable, en tout cas Dieu en tant que vérité absolue, ne peut pas être connu. Donc il y a toujours
Alors là on joue sur les mots, parce qu'effectivement, ce que vous dites là, c'est la définition de la théologie apophatique, la voie négative. On ne peut pas parler d'agnosticisme au sens moderne du terme. C'est-à-dire que là vous l'utilisez dans un sens, on peut l'utiliser aujourd'hui dans un tout autre sens, et il y a des gens qui, se disant agnostiques, disent « je ne peux absolument pas me prononcer sur l'existence de Dieu ou pas », alors qu'on peut être un agnostiste au sens où vous l'entendez, où on croit en un Dieu, mais on dit « on ne peut rien dire de ce Dieu ».
Alors c'est pour ça qu'il disait « je suis agnostique et mystique ». Voilà.
Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis y retourner plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Retranché dans une cale et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre ou une ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je?
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Christiane Rancé qui nous parle de Lucien Gerfagnon. Petite question, Christiane. Pourquoi avoir choisi ce titre, cette musique d'Ulysse de Ridane?
Parce qu'elle me correspond d'abord. C'est une chanson que je trouve très jolie, avec évidemment des paroles de Joachim du Bellay, puisque c'est la mise en musique du poème de Joachim du Bellay. Et je trouve que ça s'accorde très très bien avec Lucien Gerfagnon, parce que c'est quelqu'un qui avait l'art de reverdir les textes. Et la grande force de Lucien Gerfagnon, c'était de ramener le lecteur à l'origine du texte, au pied de la lettre, et en éclairant cette lettre par tout ce qu'il avait précédé. Donc il vous donnait la genèse de l'œuvre par un retour au maître de l'écrivain, du penseur. Et ce qu'a fait Ridane en faisant cette chanson, eh bien, c'est qu'il a tout d'un coup sorti des livres scolaires ce très joli poème de Joachim du Bellay qui nous parle effectivement de l'exil et qui nous parle de ce qu'on pourrait appeler ce qui a fait un scandale de l'identité nationale. Voilà, c'est quelqu'un qui a très bien compris ce que la langue française, dans toute sa beauté, pouvait apporter comme réponse à ce qu'est être français, c'est-à-dire revenir aux beaux textes et aux belles lettres.
Alors, parmi ces auteurs que Lucien Gerfagnon a contribué à faire redécouvrir avec un regard neuf, vous nous avez parlé de Saint-Augustin. Dites-nous quel est le philosophe grec qui l'a le plus marqué, qui a été le plus déterminant pour lui, qui l'a le plus cherché à faire redécouvrir?
Alors, il parlait beaucoup de Plotin, parce qu'effectivement, Plotin est quelqu'un des premiers qui a été bouleversé, au sens philosophique du terme, par cette recherche d'une transcendance, d'un un tout, à partir des textes anciens, c'est-à-dire à partir de Platon. Donc Plotin va réfléchir à cette possibilité d'ébranler l'intelligence, l'âme et le cœur dans cette recherche d'un un tout. Il va parler aussi de Porphyre, qui donc était lui-même un élève de Plotin. Et Lucien Gerfagnon va nous apprendre comment à la fois Platon, puis donc Plotin, puis Porphyre, puis ensuite les philosophes romains, puisqu'il aimait chez Rome cette possibilité d'avoir tout d'un coup repris les textes grecs et de les avoir amplifiés, de leur avoir permis de rebondir dans leur temps. Il y aura donc Sénèque et Cicéron, et comment tous ces penseurs vont amener Saint-Augustin à réfléchir lui-même à la transcendance à la foi et à devenir donc un
père de l'Église. Oui, donc il va faire un lien entre ces penseurs grecs et Saint-Augustin. C'est il va relier les deux pensées.
Absolument.
Alors, c'est évidemment ce que vous venez de dire sur Plotin et les néoplatoniciens nous ramène à ce qu'on disait juste avant la musique sur la mystique apophatique, puisque la mystique apophatique chrétienne, avec le pseudo-Donis, qui s'est développée tout au Moyen-Âge jusqu'à Maître Eckhart, consiste à dire qu'on ne peut rien dire de Dieu, que le divin nous est inaccessible. Maître Eckhart ira jusqu'à dire au-dessus de Dieu, il y a la déité, qui est l'essence divine ineffable, et Dieu, c'est simplement la manifestation dans le monde de la déité ineffable, et même la Trinité doit être comprise comme une manifestation de Dieu. Donc, tout ce discours dogmatique est relatif d'une certaine manière par rapport au seul absolu qui est la déité, dont on ne peut rien dire. Donc là, on voit que toute la mystique apophatique a sa source en Occident dans Plotin. Et finalement, Plotin, c'est un bon réconciliateur de la philosophie et de la mystique.
Oui, alors réconciliateur, effectivement.
Enfin, il fait les deux, il est
voilà.
Les deux.
Mais là aussi, ce qu'apprend Lucien Gerfagnon, c'est toujours de se méfier de l'anachronisme, c'est-à-dire il vous apprend à ne jamais lire un texte à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui. On ne peut pas lire un texte à la lumière de ce qui a été écrit comme commentaire a posteriori, il faut lire un texte à partir de ce qui a précédé. Donc il faut lire Plotin, non pas à partir de Saint-Augustin, puisque là on retomberait dans le même péché, mais il faut lire Plotin à partir de Platon. Et ce qu'il y a de formidable, c'est de comprendre effectivement effectivement comment une pensée va s'élaborer d'une intelligence à l'autre, d'un être à l'autre, et comment chacun va féconder la pensée qui a à venir.
Est-ce que Lucien Gerfagnon s'est intéressé à la dimension orientale de Plotin, au voyage qu'il a fait en Inde, et donc l'influence qu'aurait pu avoir l'Inde sur, parce qu'il n'y a pas que Platon comme influence chez Plotin. Est-ce qu'il s'est intéressé à cette dimension-là ?
Pas que je sache.
Parce que c'est une chose qui intéresse beaucoup de spécialistes de Plotin, c'est cette dimension orientale. Et il me semble que Lucien Gerfagnon s'intéresse surtout à la pensée occidentale.
Oui, c'est-à-dire qu'il a établi effectivement une filiation des auteurs entre eux à travers effectivement cette école, les écoles de philosophie, à travers les textes qui nous sont restés. Je pense que, je ne pense pas du tout qu'il se soit intéressé à de possibles influences des Védas ou sur l'œuvre de Plotin.
C'est pas tellement les Védas, mais c'est effectivement plutôt déjà les Upanishads, les textes ultérieurs mystiques. Et puis la conception de l'un peut venir aussi. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent justement que Plotin est au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Mais ça m'intéressait de savoir si Lucien Gerfagnon s'était intéressé à l'Orient ou finalement non, c'est un grand amoureux de la culture classique occidentale.
Oui, il partait du principe. Alors je ne peux pas vous dire qu'il ne s'y soit pas intéressé puisque je sais qu'il a beaucoup lu. Il parlait de Gilgamesh. Donc maintenant, vous dire qu'il a spécifiquement étudié l'influence orientale des Upanishads sur l'œuvre de Plotin.
Ou même est-ce qu'il s'intéressait à l'Orient, tout court ?
Il s'intéressait à tout. Il était très ouvert et il a étudié effectivement tous les textes. Il aimait beaucoup tous les textes mystiques. Donc le soufisme fait partie des grands textes mystiques. Maintenant, ça c'était dans une recherche personnelle. Dans ce qui consistait en un travail de philosophie et d'histoire de la philosophie, il s'est spécialisé effectivement dans la Grèce et dans la Rome antique. Donc il est resté dans ses travaux. Proprement dans ses travaux, il est resté dans le cadre qui est déjà immense de travail des Grecs, de Platon, des néo-platoniciens et des pères de l'Église d'une certaine façon.
Oui, d'ailleurs, on voit bien dans cet entretien qu'il était à la fois très... Il tenait à être resté historien, avec les références très précises, etc. Il a eu un maître qui lui a enseigné la rigueur historique de l'historien et qu'en même temps, il était philosophe. Et on se prend peut-être à regretter que cette rigueur, peut-être, cette honnêteté intellectuelle aussi, l'ait peut-être empêché de dire aussi, de parler plus en son nom propre, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en effet, on a l'impression qu'il y a presque une timidité. Vous avez dit, par exemple, il pense qu'il faut lire un texte par rapport à ses prédécesseurs et pas à ceux qui ont suivi. Mais pourquoi pas ? Après tout, un texte, c'est aussi quelque chose qui fait sens aujourd'hui et maintenant. D'ailleurs, vous aviez proposé comme titre de dire comment la sagesse des antiques est liée à la spiritualité d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il s'est livré aussi autrement, à part dans son livre d'entretien, en tant que lui, Lucien Gerfagnon, comment il lisait ses textes, autrement qu'en tant que spécialiste historien ? Mais vraiment, voilà, vous avez
en
dit...
En tant qu'homme,
parce qu'il a lu tous les textes, soufis, etc. On se prend à regretter qu'il n'y ait pas, non pas qu'il n'ait pas fait système, parce que ce n'est pas la question, mais qu'il n'ait pas livré ce que personnellement il a perçu de cela, comment ça l'a nourri, et comment après il peut aussi continuer à nourrir les lecteurs que nous sommes.
Alors non, il ne l'a pas fait, en même temps il l'a fait. Il ne l'a pas fait parce que sa démarche était justement d'amener, c'était un professeur, mais c'était un philosophe. C'est-à-dire sa démarche était une démarche de maïeutique. Il était très socratique dans ce sens-là. Il partait du principe que le dialogue a une vertu extraordinaire. C'était en proposant soit des paradoxes, soit l'ironie, c'est de proposer à celui qui parle avec vous de déployer, d'aller jusqu'au bout de sa pensée et d'accoucher et d'aider la pensée personnelle de l'autre à prendre forme et à se déployer dans ce qui fait la nature, ce qui fait le caractère, l'essence même de l'autre. Donc ça, il ne pouvait pas donner sa pensée parce que pour lui, c'était limité, c'était devenir dogmatique et c'était tout d'un coup demander à celui avec qui il parlait d'épouser la pensée de Lucien Gerfagnon. Lucien Gerfagnon disait je ne veux pas de gerfagnonisme, je suis là dans une démarche proprement de maïeutique, d'accoucher l'autre dans ce qu'il a de meilleur.
Heureusement que tous les philosophes n'avaient pas son scrupule, sinon on n'aurait ni les textes de Platon, ni les textes d'Aristote, ni les textes de Spinoza, ni les textes de Montaigne. C'est-à-dire que heureusement que beaucoup de philosophes ont osé dire ce qu'ils pensaient, quelles étaient leurs convictions, quels étaient le fruit de leur raisonnement, et c'est là que je rejoins complètement la critique de Lely. Moi, seul reproche que j'aurais à faire à Lucien Gerfagnon, que j'ai, en plus je ne le connais pas bien, mais j'ai eu une, vraiment, je trouvais que c'est un homme délicieux, absolument adorable, c'est qu'il s'est effectivement, par une grande modestie, caché derrière des grands auteurs, et on a tout le temps envie de savoir, mais lui, qu'est-ce qu'il pense ?
Alors, pour moi, je trouve qu'il le dit, mais il le dit en filigrane. Alors, ce que ce livre de conversation, mais qui était des conversations écrites, donc qui demandait une grande réflexion, c'est-à-dire nous parlions ensemble, on mettait dans ces conversations, on arrivait à une question ou à un point déterminant. Je rédigeais les questions, je réfléchissais à une espèce de synthèse de cette conversation et il me répondait par écrit. Ce qui est formidable parce que ça donne à la fois une très grande tenue au livre, mais c'est sa pensée qu'il exprime, en même temps qu'il n'y a pas place à l'erreur. Donc ça, c'est une première chose. Mais cette pensée qui est exprimée, plus résumée dans ce livre d'entretien, elle est partout dans son œuvre. Lucien Gerfagnon ne choisit pas Saint-Augustin par hasard. Il ne choisit pas de nous parler de Plotin par hasard. Il ne choisit pas de parler de Porphyre par hasard. C'est sa pensée qui est, et le regard qu'il va donner à cette pensée, la façon dont il va reverdir ses textes, c'est ça le travail de Lucien Gerfagnon. C'est justement, effectivement, de ne pas mettre un concept en place, mais c'est simplement de reverdir les textes qu'il nous donne à lire, qu'il va découvrir, qu'il va rechercher, qui avait un petit peu disparu, qui échappait un petit peu à l'enseignement traditionnel. Et il vous dit, voilà ce qui se passait en ce siècle, voilà comment les choses étaient vues, réfléchissez pourquoi à telle époque, j'ai dit n'importe quoi, pourquoi à telle époque le principe de la façon de mourir était vu on parlait des épicuriens d'une façon différente que les stoïciens. Pourquoi Socrate meurt-il de cette façon? Et pourquoi un jour Jean Kélévitch va poser la question de la mort? Voilà. Mais il vous parle de la mort et il vous oblige, en vous posant ces questions, en vous obligeant à faire ce lien, en vous appareillant à une autre pensée.
Oui, il nous apprend à penser.
Voilà, il vous donne ce fil invisible entre d'une pensée à l'autre, et ça, c'est une forme de pensée. Il vous pousse à chercher vous-même et à élaborer une pensée, et en fait, à comprendre cette espèce d'exégèse qu'il fait en permanence de l'œuvre philosophique en général.
Alors, vous nous disiez qu'un des fils rouges de sa pensée que vous avez pu retirer à travers ces entretiens où justement vous avez abordé avec lui tous ces différents aspects qu'il a étudiés, c'est l'espérance. Et donc, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots, comment est-ce que l'espérance traverse justement tout son parcours?
Alors justement, ce que je disais la dernière fois, c'était cette expérience qu'il a faite quand même pendant la guerre, dans ce camp qui a été terrible pour lui. Et il aurait pu sombrer dans une espèce de désespoir, de nihilisme, de refus de croire, puisqu'il avait vu effectivement la mort à l'œuvre et jusqu'à la fin même de la portée mystique, de la portée de la mort, puisque c'était la mort usinée d'une certaine façon. Et il va revenir donc de cette expérience avec une expérience, avec une espérance folle en la nature, on va dire, cette petite part divine que l'homme a en lui et qu'il va chercher à exalter. Et cette voie qu'il va prendre, c'est donc Jean Kélévitch qui va la lui apprendre en disant, eh bien, il m'a appris quelque chose, c'est la recherche d'une transcendance. Et cette expérience, effectivement, c'est la recherche de l'amour et de ce que représente l'amour et cette question de aimer son prochain. Qu'est-ce que veut dire aimer son prochain? Et l'espérance, effectivement, pour Lucien Gerfagnon, c'est cette foi qui consiste à espérer en un amour possible, en un amour qui existe et à mettre en œuvre ici et maintenant avec son prochain, quel qu'il soit.
Thank you.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre conversation avec Christian Drancé sur Lucien Gerfagnon à l'occasion de la sortie de son très beau livre d'entretien, de dialogue avec le philosophe Lucien Gerfagnon, De l'amour, de la mort, de Dieu et autres bagatelles. Lélie Anvar.
Oui, alors vous parliez d'espérance et du fait que pour lui, d'ailleurs, la foi, c'est une forme d'espérance. Et vous avez dit que cette foi s'était renforcée, ou en tout cas cette espérance, après une expérience qui est quand même une expérience de la souffrance et du mal. Et j'aurais voulu savoir si il dit quelque chose de la manière dont il articule le constat du désespoir et du mal dans le monde et cette espérance qui l'anime.
Alors, oui, je lui ai posé une question dans le livre sur le malheur, sur l'existence du malheur. Et Lucien Gerfagnon a une réponse à la fois très simple et très personnelle et très intime, qui est qu'effectivement, c'est une expérience, le malheur et le mal est une expérience personnelle. C'est-à-dire, le mal n'existe qu'à partir du moment où on en fait l'expérience soi-même. Et à ce mal, il répond effectivement par l'espérance d'un dépassement qui est l'espérance de l'amour. Voilà, donc ça, il reste toujours sur ce versant. Il est comme un équilibriste. Voilà. Lucien Gerfagnon, l'image qui vient toujours, c'est cette espèce de funambule qui marche sur ce fil qui fait très exactement la séparation entre son monde personnel, un monde qui est la foi, l'amour et le mysticisme, et de l'autre côté, l'agnosticisme avec le doute, le travail, la recherche, la méfiance vis-à-vis des dogmes et des vérités toutes crachées. Et il marche sur ce fil avec ce balancier qui est effectivement de chaque côté des mains, qui est cette foi et cet amour en réponse à ce mal qui n'est pas un concept qui tombe, quelque chose qui tombe du ciel comme la pluie ou le vent, qui est l'émanation d'une action qu'un homme peut mettre en marche lui-même.
Et quelles sont les expériences de l'amour qui l'ont le plus bouleversé? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce qu'il y a des expériences humaines dans le cadre d'une vie amoureuse, amicale, de ses enfants? Ou est-ce que c'est aussi une expérience mystique avec le Dieu d'amour de Jésus-Christ? Ou quelles sont les expériences d'amour dont il parlait?
Alors, je crois qu'il les a connues toutes, hein, puisque Lucien Gerfagnon a d'abord une femme qu'il appelait sa meilleure moitié, Thérèse, et c'était un très joli spectacle de les voir ensemble. Et c'est d'ailleurs toujours un très joli spectacle de les voir ensemble parce que Lucien Gerfagnon est vivant dans son œuvre et que Thérèse continue à s'en occuper. Donc elle maintient cette vie intense.
Elle l'a accompagnée aussi dans son travail.
Elle l'a accompagnée dans son travail, elle l'accompagnait toujours. Et
nous l'avons rencontrée ici, effectivement, voilà, elle est absolument charmante. Et effectivement, ça a donc été une moitié à la fois par le cœur, mais aussi intellectuellement.
Absolument. Ensuite, il avait sa fille et ses petits-enfants, dont il me parlait toujours avec beaucoup de tendresse. Et c'était très joli de voir tout d'un coup ce professeur devenir un père, un grand-père, et avec ce souci d'une transmission d'un savoir qu'il avait toujours. Il avait ensuite une forme d'amour qui était donc l'amour du prochain, qui a été effectivement ces moments d'amitié. Et il parle de l'amitié d'une façon bouleversante parce qu'il évoquait très souvent son amie Jacqueline de Romilly. Il parlait souvent de Jean Orcibal, qui a été son maître et qui donc lui a fait découvrir cette méthode. Il parlait avec un tout aussi grand amour, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de Paul Venn, avec qui il a entretenu une très grande correspondance. Il parlait aussi de ses amis qui l'ont entouré, de tous les gens qui l'ont fécondé et qui lui ont permis, par moments peut-être, de gagner du temps sur une pensée qui était toujours en mouvement chez lui. Donc ça, c'est une autre forme d'amour. Et puis bien évidemment, il y avait l'amour de Dieu. Et il aimait beaucoup, là, je pense qu'il était effectivement, je ne trahirai rien en disant qu'il était chrétien, et il aimait particulièrement le Christ, Jésus, et il citait souvent donc l'évangile de Luc, et le passage avec les pèlerins d'Emmaüs, et avec « Reste avec nous encore quand Jésus revient ».
Cette présence brûlante, voilà. Alors qu'ils ne le reconnaissent pas.
Oui. Et c'est cette présence extraordinaire, et c'est cette attente, voilà, de cette
plus exactement, d'ailleurs, ces paroles qui brûlent. Donc c'est, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'au fond, le verbe qui est reçu est un verbe brûlant.
Tout
dans,
à fait.
Dans l'histoire.
Alors parmi ces maîtres qui l'ont fécondé, dont il a sans doute eu aussi une belle amitié, il y a Vladimir Jankélévitch. Alors c'est évidemment quelqu'un, il nous en avait parlé avec beaucoup d'émotion quand il était venu, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui, qui a été un de ses maîtres vivants, peut-être le plus important.
Sans doute, oui, puisque, comme je le disais, il a rencontré Vladimir Jankélévitch. Et c'est Vladimir Jankélévitch qui, à la sortie de la guerre, de cette expérience terrible, va tout d'un coup le bouleverser, c'est-à-dire va lui faire comprendre qu'il y a une transcendance et il va être à la recherche de cette transcendance.
Léon Var.
Oui, d'ailleurs, il dit à un moment que Jankélévitch était évidemment, avait un judaïsme très profond, mais qu'il était aussi probablement meilleur connaisseur des pères de l'Église et toute la tradition chrétienne mystique que bien des chrétiens de ses contemporains. Et évidemment, on ne pouvait pas faire cette émission sans évoquer Jankélévitch et sans lire un texte de Jankélévitch qui avait une si belle plume. Alors j'ai choisi pour l'occasion la dernière page du tome 1 du Je ne sais quoi et le presque rien, parce que je crois que, après avoir lu votre livre d'entretien avec Lucien Gerfagnon, je crois qu'il a véritablement appliqué le conseil qu'ici Jankélévitch donne à tous ses lecteurs, à savoir que, évidemment, la vie humaine est quelque chose d'absolument infime et d'insignifiant, et en même temps, c'est le lieu de l'infini, et qu'il convient donc de faire de sa vie quelque chose qui soit un saisissement de l'infini dans le fini, de l'éternité dans l'instant. C'est peu de choses qu'une vie d'homme, peu de choses que le petit canton où cette vie s'écoule, peu de choses que la plus longue renommée posthume transmise par une succession d'homoncules mornés et oublieux. De même que le monde, selon Pascal, est un trait imperceptible dans la nature et la Terre un point au prix du système solaire, et le système solaire lui-même une pointe très délicate par rapport à l'univers des univers, de même la personne, ce grand métazoaire pensant, apparaît dans l'immense multitude des morts comme un indiscernable presque rien. Insignifiante et miraculeuse, la vie de quelqu'un découpée dans le vaste océan obscur est un instant d'instant. Elle est donc, pour associer deux mots contradictoires, un grand instant. Et l'être qui vit cet instant, il est à son tour une chance unique, un apax incarné, une occasion à deux pattes qui va, qui vient, qui naît, se continue et puis disparaît pour toujours. Rien que de penser à cette unicité mystérieuse, le cœur bat plus fort et plus vite. Or, c'est notre vie entière qui, perdue dans l'éternité, se réduit à ce tranchant aigu, à cette finesse filiforme, à ce trait imperceptible. Elle est un tout infini qui se réduit à rien. Elle est donc presque rien. Aussi est-elle passionnante et infiniment précieuse. Il n'est rien de si précieux que ce temps de notre vie, cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois et puis jamais plus. Le coq chante et le jour brille. Lève-toi, mon aimé, c'est l'heure, c'est l'heure. Aura, tout à l'heure, il sera trop tard, car cette heure-là ne dure qu'un instant. Le vent se lève, c'est maintenant ou jamais. Ne perdez pas votre chance unique dans toute l'éternité. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps. Alors on voit, hein, il convoque évidemment Pascal et les deux infinis, le fait que notre vie c'est infiniment rien et c'est infiniment tout. Et j'ai vraiment l'impression, après vous avoir lu, que Lucien Gerfagnon a vécu cela véritablement à chaque instant de sa vie. Cette idée que le vent se lève, comme disait Paul Valéry, il faut tenter de vivre.
Oui, il avait toujours, donc en réponse à Jankélévitch, il avait repris quelque chose de très beau qui disait « Le fait que quelqu'un ait vécu fait qu'on ne pourra jamais rien y changer. Personne ne pourra contester l'existence d'un être sur cette terre. » Alors reste effectivement à savoir ce que chacun fait de sa vie. On revient sur ce que nous disions tout à l'heure, sur cette espérance en un amour, c'est-à-dire donner le meilleur de lui-même dans ce qui lui a été accordé de talent et de don pour le faire. Voilà.
Alors, on a envie de savoir, non, pour terminer cette émission, qu'est-ce qui vous a dit de la mort, puisque c'est un des thèmes principaux de votre entretien. Il ne savait pas, au moment où vous avez commencé ce livre, qu'il allait bientôt mourir. Qu'est-ce qui vous a répondu sur la question de la mort avant de le savoir ?
Alors, il y a évidemment, il s'est beaucoup référé à Jean Kelevich dans le livre, mais il a fait plus que me dire, il m'a donné un exemple. Parce que j'ai eu le très grand privilège donc, de voir Lucien Gerfagnon 3 jours avant sa mort. Il était donc dans une clinique de soins palliatifs et je pensais lui avoir déjà dit au revoir. Et j'avais demandé si je pouvais venir le voir et il m'avait dit non dans un premier temps. Puis il m'a dit d'accord. Et quand je suis allée le voir, ça s'est passé un après-midi, ça a été un moment de grâce extraordinaire parce qu'il a parlé de sa mort en toute clarté, sans peur, mais sans non plus s'étourdir. C'est-à-dire qu'il était face à elle dans cet instant qui fait qu'effectivement, la mort dénude un destin. Et il m'a dit, il y avait donc Thérèse, il a dit, voilà, j'en suis à ce moment qu'a connu Porphyre, donc l'élève de Plotin. J'en suis à ce moment où je cherche à élever vers le divin ce qu'il y a de divin en moi. Et c'était tout à fait sa démarche, c'est-à-dire il n'avait pas peur de la mort, il avait simplement peur du chagrin que sa mort pourrait causer, notamment à Thérèse, à sa femme et à tous ceux très nombreux qui avaient pu avoir la chance de le connaître. Mais il attendait de la mort aussi une grande surprise.
Oui, il y avait et une ça, curiosité.
C'est extraordinaire parce
que de l'agnostic qui espère.
Malgré donc la morphine, malgré son état de très très grande faiblesse, il y a eu cette étincelle dans son regard parce que c'est quelqu'un qui vous prenait par les yeux quand il vous parlait et il y a eu cette étincelle magnifique dans son regard, ce sourire et il a dit et puis qui sait, j'aurai sans doute une grande surprise et je vais peut-être retrouver et là il m'a parlé effectivement d'une double forme d'amour. L'amour de ses amis, puisqu'il espérait retrouver Jacqueline de Romilly, il espérait retrouver Jean Orcibal, Vladimir Jankélévitch, et en même temps d'avoir cette surprise, évidemment, d'être dans une lumière qui était celle de celui qu'il a cherché toute sa vie, ce un tout, ce Dieu, ou quel que soit le nom que chacun peut lui donner.
Chaque dimanche, nous terminons cette émission des Racines du Ciel par un petit agenda culturel. Lélie Anvar.
Oui, je voudrais signaler que un ouvrage de Lucien Gerfagnon va être publié début 2012, donc à titre posthume. C'est un ensemble d'articles qu'il n'avait pas publiés avant et qui ont été réunis dans cet ouvrage. Alors ça va de la lumière grecque à la présence de Rome, et puis ça parle des marges du christianisme et aussi de saint Augustin. Donc finalement, ça résume un peu son parcours avec des textes inédits. Et donc
à lire en complément de l'amour, de la mort de Dieu et de Bagatelle chez Albin Michel.
Ça s'appelle Connais-toi toi-même et fais ce que tu aimes. Et c'est aussi chez Albin Michel.
Voilà, donc on a Socrate et saint Augustin. Christiane Rancier, vous vouliez parler d'un film qui vous a beaucoup marqué, qui je crois qu'on peut le trouver en DVD s'il n'est plus encore sur les écrans, c'est évidemment The Tree of Life.
Oui, d'ailleurs ça reprend le texte, le très beau texte de Jean Kelevich qu'a lu Lélie Anvar tout à l'heure. Et j'ai été très touchée par ce film qui m'a profondément marquée parce qu'il pose justement le fond de ce texte, à savoir qu'il présente de la même façon le chaos de la création et l'inconnaissable idée de cette création et de Dieu, ce que Jean Kelevich appelle appelle, et la présence et l'existence de l'homme, de ce petit bébé qui va naître, qu'il appelle signifiante, cette vie signifiante et miraculeuse. Et c'est ce rapport toujours entre les deux qui pose effectivement la question de la nature de Dieu, de la foi, de l'espérance et de toutes les questions que ce film soulève en nous.
Vous vouliez parler aussi d'un ouvrage, Le Sacrement de l'amour de Paul Evdokimov, aux éditions Le Tielleu.
Oui, alors Paul Evdokimov s'est penché très spécialement sur ce sacrement de l'amour et sa signification dans l'orthodoxie. Mais c'est un livre magnifique parce qu'il vous présente effectivement ce que l'amour conjugal dans le sacrement peut tenir et être une espèce de liturgie et de prière à deux, de prière de vie et de joie, et qui dit l'existence de Dieu dans cet amour conjugal. Donc je le recommande vraiment, c'est un très très beau texte sur la femme, l'homme, l'amour physique et donc le mariage de ces deux ipséités, comme disait Lucien Gerfagnon.
Et pour terminer, je vais vous dire un petit mot, non pas d'un livre ou d'un film, mais d'une association que je parraine, qui s'appelle le Paris Solidaire. Et comme on approche de Noël, je souhaite vous en parler. C'est une association qui a été créée en 2004 par Aude Messéan. C'est suite à la grande canicule de 2003 où plus de 20 000 personnes âgées isolées sont mortes. Et au fond, l'idée du Paris Solidaire, c'est de réunir des personnes âgées isolées avec des jeunes étudiants sans ressources et de permettre comme ça un binôme dans lequel l'étudiant va payer très peu cher une chambre et va soutenir, aider, être une présence pour la personne âgée. Alors je trouve que c'est vraiment une très très belle idée que je soutiens vivement. Et il suffirait, en fait, la difficulté pour l'association, elle a beaucoup de demandes d'étudiants, moins de demandes de personnes âgées. Donc si vous connaissez autour de vous des personnes âgées qui pourraient avoir une place et qui seraient heureuses d'avoir un étudiant, qui sont sérieusement triés auprès d'elles, ce serait donc une très bonne chose de le signaler. Et puis l'association a également besoin d'un petit peu de dons pour tout simplement se financer, parce qu'il y a deux personnes qui y travaillent. Il suffirait que 500 personnes donnent 10 euros par mois pour que l'association arrive à être autosuffisante sur le plan financier. Donc voilà, s'il y a 500 auditeurs qui donnent 10 euros par mois, c'est défiscalisé à 66%, donc ça fait 4,40 €. Ça permettrait à l'association de perdurer, qui fait un travail formidable. Donc vous pourrez trouver les coordonnées sur internet leparissolidaire.fr, et puis nous allons mettre également sur internet son adresse que je donne ici, Le Paris Solidaire, 15 rue de Senlis, dans le 17e à Paris. Merci à vous, merci beaucoup Christiane Rancé d'être venue nous parler de cet homme merveilleux qui était et qui est toujours Lucien Gerfagnon.
Merci à vous.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai pour le jour de Noël Jean-Christian Petit-Fils qui nous parlera évidemment de Jésus. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Bon dimanche à tous.